Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Dans le cadre de la politique de proximité avec les auditeurs de ces programmes, le studio Kalangou est aujourd'hui à Arlit pour donner la parole aux Nigériens loin de la capitale, un travail appuyé par les travailleurs des radios, partenaires qui diffusent les programmes du studio Kalangou. Il s'agit des équipes de radio Ikokan et Kausen d'Arlit. Aujourd'hui, nous développons la thématique impact des déchets issus de l'exploitation de l'uranium sur les hommes et les animaux et l'environnement. Quelle est la nature et la quantité des déchets issus de l'exploitation des mines d'uranium? Quelles sont les conséquences documentées des déchets miniers sur les êtres vivants et l'environnement? Comment se fait la gestion de ces déchets issus des mines d'uranium? Quelles sont les failles de la gestion de ces déchets? Quelles sont les mesures de prévention et de protection des hommes et des animaux contre la radioactivité des déchets miniers? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Ramar Ilatoufeg, secrétaire général de l'ONG Agriman, Bassirou Moussa Babalé, directeur départemental des mines ici à Arlit. Nous avons également invité Orano, ex-Areva, pour cette même émission. Ce dernier a promis de répondre plus tard à nos questions. Bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices, dans ce forum que nous réalisons depuis Arlit à environ 1200 km de Niamey. Ici, nous allons vous parler de pollution minière et surtout de l'impact des déchets issus de l'exploitation de l'uranium sur la santé de l'homme, les animaux et sur l'environnement. Arlit voit le jour à la suite de la découverte et de la mise en exploitation des gisements d'uranium à partir de 1969. C'est ainsi que depuis près de 50 ans, le groupe français Areva exploite de l'uranium en ciel ouvert et en souterrain à travers respectivement ses filiales, la Société des mines de l'Aïr Somaïr et la compagnie minière d'Akuta Kominak. L'exploitation de cette matière, l'uranium, n'est pas sans conséquence du fait non seulement de la pollution de ces déchets miniers, mais aussi de la radioactivité. Je vais laisser la parole aux locaux pour nous en dire plus sur l'ampleur et la réalité ici. Mais avant, je donnerai la parole aux deux invités pour que chacun puisse se présenter et présenter sa structure. Je commencerai par ma droite.
Donc moi, c'est Ramar Ilatoufeg. Je suis le secrétaire général de l'ONG Agriman. C'est une ONG qui fait la protection de l'environnement, notamment autour des sites miniers et dans la région d'Agadez.
Nous avons également avec nous Bassirou Moussa Babalé.
Je suis le directeur départemental des mines d'Arlit. La direction départementale des mines d'Arlit a été créée en 1984 et comme principale activité de la direction départementale des mines, c'est le suivi et contrôle des activités des sociétés minières.
Alors, la pollution des mines d'uranium se présente comment ici à Arlit? Comment vous la décrivez, Monsieur Ramar Ilatoufeg, secrétaire général d'Agrimen?
Bien. Comme vous le savez, les mines à Arlit ont commencé leur activité depuis 1969. Une période s'est écoulée pendant laquelle les impacts de l'exploitation des ressources naturelles comme l'uranium n'est pas connu du public et n'est même pas connu des Nigériens. Jusqu'aux années 86-90, c'est à ce moment que les Nigériens ont commencé à prendre conscience qu'il y a des impacts des activités d'exploitation d'uranium. Et véritablement, c'est aux environs des années 2000 que ces impacts-là ont commencé à faire leurs effets et c'est à cette époque-là aussi que les organisations de la société civile ont commencé à s'intéresser à ça et c'est à cette occasion que nous avons créé l'ONG Agriman qui s'occupe de ce volet de l'impact de l'exploitation des ressources naturelles à Arlit. Donc, comment nous avons fait pour dire qu'il y a des impacts, notamment négatifs? On a constaté que à partir de l'année 2000, il y a beaucoup de maladies que nous ne connaissons pas et il y a beaucoup de décès suspects d'un certain nombre de travailleurs qui ont travaillé dans des endroits exposés. Il y a ces décès-là. Nous nous sommes posé la question, pourquoi est-ce que s'il y a ces nouvelles maladies, pourquoi est-ce qu'il y a ces décès-là? Et nous nous sommes partis pour dire que ces décès-là doivent être liés quand même à l'exploitation de l'uranium. Nous ne sommes pas des scientifiques pour dire ça, mais nous estimons qu'il y a un lien entre ces exploitations-là et ces maladies-là. Cette situation, elle a donné lieu à une grande polémique dans les années 2007-2009 entre les organisations de la société civile et les exploitants miniers, notamment Areva. Les exploitants miniers disent qu'il n'y a rien, les organisations de la société civile disent qu'il y a quelque chose. Jusqu'à preuve du contraire, donc il y a eu des organisations qui sont venues faire de contrôle dans ces années-là et elles ont découvert un certain nombre de choses. Elles ont découvert un certain nombre de radioactivités, notamment des sols, notamment des eaux, et ainsi de suite. Bien sûr que les filiales d'Areva avaient refusé cette thèse-là, mais elles ont fini par l'accepter. Elles ont fini par l'accepter parce qu'ils ont fait de contrôle eux-mêmes. Ils ont vu que ça existe, notamment par exemple quand on prend les déchets qui sont éparpillés dans la ville d'Arlit, par exemple, notamment dans les habitations. Parce que comme vous le savez, les gens, dans le temps, comme ils ne savaient pas c'est quoi la radioactivité, ils partaient, ils prenaient des matériaux, des usines, ils faisaient des constructions là-dedans, des constructions de maisons, ils faisaient même des ustensiles de cuisine, ils faisaient des caisses avec. Et ces matériaux-là ont été contrôlés positifs avec de la radioactivité. Donc c'est comme ça qu'ils ont accepté qu'il y a de la radioactivité dans la ville et que le débat a fini par aboutir à une entente entre la société civile représentée par l'ONG Agriman, la direction des mines, la direction le Centre national de radioprotection et Areva pour qu'il y ait un contrôle dans l'ensemble de la ville d'Arlit pour savoir quel est le degré de contamination dans la ville d'Arlit. Ce degré de contamination, on s'est donné un certain nombre de points d'accord qui sont des échantillons. On a pris 120 échantillons de maisons pour savoir exactement comment c'est. Ensuite, on a pris toutes les rues et le riel de la commune urbaine d'Arlit pour faire un contrôle radiologique ensemble avec la direction des mines, les sociétés minières et l'ONG Agriman. À partir de 2011, donc, ce contrôle a commencé pour savoir exactement quel est le degré de contamination. Beaucoup d'investigations ont été faites. En ce qui concerne le riel, par exemple, on a trouvé entre Arlit et Akokan 104 points contaminés radiologiquement dans le riel de la ville d'Arlit. Ces 104 points contaminés, comme le stipule l'accord, ont été nettoyés. Et on a enlevé de la radioactivité là-dedans, ces 104 points-là. Ensuite, concernant les habitations, parmi les habitations, on a 120 habitations à faire. Dans ces habitations, il y a à peu près une vingtaine d'habitations dans lesquelles on a trouvé de la radioactivité. Dans ces vingtaines d'habitations, il y a une dizaine qu'il fallait totalement démolir et ramasser et ramener en zone industrielle et reconstruire. Ça a été fait.
Et ça a été fait.
Ça a été fait. Qui paye la facture? C'est le pollueur-payeur. Effectivement, c'est Areva qui paye tout ça. Ce travail-là, il a commencé en 2011, mais c'est un travail très lent. Il continue encore. Les 120 maisons sont terminées. Ça ne donne qu'un échantillon sur des milliers de maisons à Arlit. Donc, ce contrôle-là, il continue encore. Jusqu'à présent, il continue. On n'a pas mis fin à ça. Il continue.
Alors, est-ce que vivre à Arlit, c'est vivre exposé à la radiation?
Non, on ne peut pas dire comme ça. Vivre à Arlit, c'est vivre exposé à la radioactivité. Même sur le plan du travail, là où les gens travaillent, il y a des endroits où les gens sont exposés. Il y a des endroits où les gens ne sont pas exposés.
Donc, sur les sites miniers.
Sur les sites miniers. Maintenant, pour ce qui concerne la ville, si par exemple dans votre maison, vous avez quelque chose qui est contaminé, une ferraille, un mur, un bloc de béton qui est contaminé, effectivement, vous êtes dans un endroit où vous ne devez pas être. Ça doit être décontaminé. Donc, on ne peut pas faire ça comme ça globalement pour dire que Arlit, non. Là où il y a la contamination, on ne doit pas rester. Et il y en a. Voilà ce qu'on peut répondre par rapport à ça.
Bien. Nous donnons la parole au directeur des mines. Et monsieur le directeur, ce que nous voulons savoir avec vous, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est que la radiation, qu'est-ce que c'est que la radioactivité.
Donc, les renommages ionisants, c'est ça la radioactivité. Quelles sont les catégories d'exposition? C'est important de les rappeler. Il y a deux catégories d'exposition. Il y a une première catégorie d'exposition qu'on appelle exposition externe. Donc là, c'est une exposition qui est à l'extérieur de l'organisme et qui est surtout causée par le rayonnement gamma. Quand tu es à côté d'une substance radioactive, d'un minerai d'uranium ou quelque chose qui est marqué, le fait que tu sois en contact, là, tu es exposé extérieurement. Donc, quand tu es en contact avec la matière, donc tu es exposé du point de vue extérieur. Maintenant, la deuxième catégorie d'exposition, c'est l'exposition interne. soit par inhalation, c'est-à-dire par respiration de l'air, ou bien par ingestion, à travers les aliments, à travers l'eau de consommation. Maintenant, le problème qui se pose...
Je ne sais pas si le secrétaire général voudrait ajouter quelque chose par rapport aux différents cas d'exposition.
Qu'est-ce qu'on va dire, les différents cas d'exposition, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour les populations, c'est surtout les habitations. Il y a l'eau aussi, mais l'eau est contrôlée. Maintenant, le seul problème en ce qui concerne l'eau, depuis la création des mines, c'est les sociétés minières qui fournissent de l'eau à la population. Et c'est les sociétés minières qui font les analyses des eaux. Donc, personne d'autre ne fait des analyses des eaux jusqu'à une bonne période que les sociétés minières. Nous nous sommes interrogés sur la réalité ou la véracité des résultats qu'ils émettent. Donc, nous nous sommes interrogés, est-ce que les résultats qu'ils donnent du point de vue radiologique, est-ce que les résultats qu'ils donnent sont de bons résultats? Au moment de la polémique, nous avions dit aux sociétés minières, filiales d'Areva, si vous voulez que nous croyons à vos résultats, il fallait trouver un troisième indépendant qui peut faire des analyses et qui va dire la réalité.
Qui va confirmer les résultats de leurs
analyses. Nous n'avons pas pu nous entendre sur ce point-là. Bon, donc chacun est resté sur ses positions. Et il pense à ce jour. Mais au moment où il y avait la polémique aussi, un certain nombre de puits contaminés ont été découverts. Ils le savent, ils ont accepté ça et ces puits-là ont été fermés, que ce soit à Arlit ici ou bien à Imorare. Donc ces puits-là ont été fermés, mais ils ont été consommés pendant un laps de temps par les populations. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport aux contaminations.
Oui, monsieur le directeur des mines.
Oui, effectivement, par rapport aux analyses radiologiques de l'eau, à un moment c'était uniquement les sociétés minières qui faisaient les analyses radiologiques. Mais à partir de 2015-2016, donc au niveau du ministère des Mines, donc nous avons monté un projet. Et ce projet-là nous a permis d'analyser tous les échantillons d'eau, de légumes et même du sol dans le département d'Arlit. On a même étalé, on est parti jusqu'au département du Péronne. Et dans le département d'Arlit, on a pris des échantillons ici, d'abord à la commune de Gandarlit, à Somaïr, à Kominak, dans les jardins Somaïr, donc le jardin à Arlit, à Koukan. On est parti jusqu'à Bougaram, parce que Bougaram aussi c'est dans le département d'Arlit. Il y avait Gobiex qui a commencé, qui faisait des recherches dans la zone. Donc on a fait des prélèvements. On a continué jusqu'à Danat, là où Imoraran aussi a fait beaucoup de travaux. Et ce qu'il faut aussi rappeler, que Imoraran, elle n'a pas encore touché à l'uranium. Elle a fait l'exploration, elle a commencé l'exploitation pour proprement dite, mais elle n'a pas touché à l'uranium. Elle a abandonné en pleine découverture. Donc elle n'a pas touché à l'uranium. Là également, on a pris des échantillons d'eau, légumes, sol. Au total, donc, dans le département, donc, y compris le département du Péronne, on a collecté 64 échantillons qu'on a amené à Lisbonne, au Portugal, c'est la capitale du Portugal, Lisbonne, et qu'on a analysé dans un institut supérieur de technologie, dans un laboratoire indépendant qui n'est pas ALGAD. ALGAD, c'est un laboratoire agréé, certifié agréé, en tout cas à qui moi je ne reproche rien. Pourquoi? Parce que quand on a analysé nos échantillons à Lisbonne, après nous avons comparé les résultats, et on a eu à peu près les mêmes résultats que ceux transmis par les sociétés minières, à savoir Somaïr et Kominak. C'est pour vous dire que l'État n'est pas resté les bras croisés, précisément le ministère des Mines. Donc on a fait cette contre-expertise-là, comme disait mon collègue. On a les données, et les données sont toujours là. Du point de vue radiologique, l'eau de consommation d'Arlit n'est pas contaminée.
Monsieur Ramar, est-ce que aujourd'hui vous savez la quantité et la nature des déchets qui sortent tout le temps issus de l'exploitation des mines d'uranium?
Oui, il y a une partie des déchets dont on ne parle pas, à part l'eau. Il y a ce qu'on appelle les déchets solides de l'exploitation de l'uranium, ce sont les résidus de traitement. Lorsqu'on traite l'uranium, il reste ce qui ne contient pas ou contient très peu d'uranium. C'est ça qu'on appelle les résidus de traitement. Ces résidus de traitement-là, ils sont stockés aux abords des usines de Somaïr et de Kominak. La quantité aujourd'hui estimée de ces résidus de traitement-là atteint au moins les 50 millions de tonnes de résidus.
Comment?
Aux abords des usines. Mmh. C'est stocké, on le voit à partir de la ville d'Arlit, on le voit pour Sommaire qui sont aux abords de la ville. Mmh. Intagri qui se trouve à Cominac aussi, aux abords de la mine de Cominac, on voit ce tas-là. Ces résidus de traitement-là contiennent beaucoup de la radioactivité parce qu'ils dégagent des radons.
Le radon, c'est un gaz radioactif, c'est ça?
Radioactif. Donc, il dégage des radons et nous avons, comme nous le disons, ces tas-là contiennent au moins 80% de la radioactivité contenue dans l'uranium. Et il y a 50 millions de tonnes de résidus. Ces résidus-là, ils ont pour nous estimons que jusqu'à présent, aucune méthode de gestion durable de ces résidus-là n'a pas été découverte. Les méthodes qu'ils sont en train de mettre en œuvre, nous estimons qu'elles ne peuvent pas résister autant. Donc, les résidus de traitement, ça va être la problématique qui va rester après l'exploitation de l'uranium. C'est un véritable problème qui va rester à gérer et dont les solutions de gestion ne sont pas définies. Scientifiquement, en tout cas, nous ne connaissons pas. Et ils disent qu'ils en connaissent quelques-unes. Bon, d'accord, ça c'est eux qui le disent, mais elle n'a pas confiance à ces mesures-là. Il y a le liquide. Il y a le liquide. Ça, ce sont les jus qui ont servi au lavage de l'uranium. C'est des milliers, des milliards de mètres cubes qui sont stockés, eux aussi, aux abords des usines, dans des grands bassins. Donc, ils sont là, dans des grands bassins. La méthode qu'ils ont trouvée, c'est de les mettre dans un grand bassin. Et pour les faire disparaître, ils disent que c'est avec l'évaporation que cela va finir. Donc, une fois l'eau va s'évaporer, elle va laisser des déchets. Ce sont des sulfates qui vont rester. Mais ces sulfates-là sont radioactifs. Ça, c'est un des aspects. Deuxième aspect, c'est que ces grands bassins-là peuvent avoir la faculté de s'infiltrer dans le sol et atteindre la nappe. Ils disent qu'ils prennent des mesures pour qu'ils ne s'infiltrent pas. Ils disent qu'ils mettent du banco et ils mettent un certain nombre de bâches.
Ils disent, mais quand vous dites qu'ils disent, ça veut dire que vous n'y croyez pas?
Oui, quand je dis ils disent, je dis ce que moi je crois. C'est pour dire, c'est pour mettre les deux. Ils disent, ça veut dire que je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a, le risque est toujours là. On ne peut pas être confiant par rapport à ces méthodes-là. C'est pour ça que je dis ils disent. Donc nous n'avons pas confiance à ces méthodes-là à 100%. Le deuxième risque qu'il y a, c'est que ces bassins-là qui contiennent énormément d'eau, et heureusement qu'à Arlit, il ne pleut pas, mais compte tenu des changements climatiques, il se pourrait qu'il y ait une grosse pluie à Arlit qui dépasse les limites et que ces bassins-là débordent. Et il se mélange avec toute l'eau et ça vient rentrer dans la ville, dans tous les quartiers. Et puis ça, en 2010, un des bassins a éclaté et l'eau s'est éparpillée.
C'est vrai que notre thèse, 3,5 km non,
voilà,
de la ville, c'est ça?
Notre thèse leur paraît un peu folle, comme si nous sommes des fous et que ça ne peut pas arriver. Mais en 2010, il y a un qui a éclaté quand même, ça la pluie. Mais le jour où il y aura la pluie, c'est tous qui vont éclater et ils vont venir n'importe où dans la ville. Voilà le risque qu'il y a. Nous disons que ce sont des risques. Mais le fait de le dire ne veut pas dire qu'on est fou.
Monsieur le directeur des mines,
oui.
Ces déchets qui, en tout cas, issus du traitement, du processus de traitement, d'extraction de l'uranium, il a parlé de millions de tonnes de résidus stockés, il a parlé de milliers de mètres cubes, ou sinon de milliards de mètres cubes de liquide radioactif stocké. Est-ce que cela n'inquiète pas la direction des mines?
Globalement, ce qu'il faut comprendre, les sites minières là sont des sociétés d'exploitation qui sont soumises à un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Globalement, c'est pour te dire que ce sont des sociétés minières qui sont contrôlées. Comme déchets, je vais synthétiser trois catégories de déchets. Déchets solides, comme les verres à résidus, là, c'est que la. Les résidus de traitement, il y a les stériles à part, il y a les résidus de traitement, il y a les déchets liquides qui sont stockés dans des bassins de fluviens, et vous avez les déchets gazeux,
un peu, parmi lesquels le radon.
Les NOx, les SOx, les radons, s'il vous plaît. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport aux déchets solides, précisément les résidus, il y a un verse qui est là, et l'inverse là, elle est contrôlée. La verse là, donc, c'est cette sorte de montagne là qui est créée à côté de l'usine. Et là, c'est la technique même de l'exploitation minière qui le recommande. Une verse à résidus ne peut pas être installée loin de l'usine. Et avant donc d'installer cette verse là, il faut nécessairement préparer le terrain. Et autour de cette verse là, en plus de la préparation du terrain, il y a des piézomètres de surveillance qui sont installés. Et ces piézomètres-là sont suivis régulièrement. S'il y a une infiltration, on va les détecter. C'est principalement notre rôle aussi, le suivi et le contrôle, là, que j'avais dit. Et autour des bassins des effluents, les effluents sont les eaux, là, les eaux issues des traitements. Les bassins, tous les bassins sont bâchés. Et tout autour des bassins, il y a des piézomètres de surveillance. Et c'est quoi le rôle de ces piézomètres-là? C'est pour détecter toute éventuelle infiltration dans le sous-sol, pour ne pas contaminer la nappe. Et en dehors de ces piézomètres-là de surveillance, il y a également des piézomètres pour la surveillance de la nappe même, pour la qualité de l'eau des nappes exploitées. Donc tout autour, vous avez ces piézomètres-là. Et chaque semaine, il y a des prélèvements dans ces piézomètres. Et nous avons les résultats.
Que vous faites ou que Areva Orano
fait. Areva fait le résultat et moi-même, je fais
la direction
ce résultat.
Des mines.
Rien que le 11 février, j'ai fait ces mêmes contrôles-là, ces mêmes mesures-là dans les piézomètres à Kouminak. C'est vérifiable. Pour la surveillance.
Des nappes phréatiques.
Tout à fait. Oui. La nappe et aussi pour la surveillance des infiltrations autour du bassin des effluents. Oui. Maintenant, pour les rejets gazés, donc il y a des stations de surveillance. Ces stations de surveillance-là captent donc les radons qui sont contenus dans l'atmosphère. Et elles sont mesurées. Chaque semaine, il y a une équipe qui fait la ronde pour prendre les mesures des appareils. Et l'ensemble des résultats sont transmis à la direction départementale des mines d'Arlit, au CNRP, Centre national de la radioprotection, et à la médecine générale du travail. Donc c'est pour vous dire que les sociétés minières-là ne sont pas abandonnées à elles-mêmes. Elles sont contrôlées. Et en dehors donc de la direction départementale des mines, nous avons nos correspondants, donc nos frères, nos amis du ministère des Mines, du ministère de l'Environnement à travers le pays, qui viennent régulièrement aussi en mission à Arlit pour contrôler, pour expertiser et voir réellement les résultats transmis par les sociétés minières là, est-ce qu'ils sont conformes à la réglementation ou pas. Vraiment, elles sont contrôlées, c'est bien suivi. Les gens pensent que quand tu viens à Arlit ou bien quand tu vis à Arlit, tu es exposé à la radioactivité. Non. Loin de là. Parce que, certes, les impacts, on sait qu'il y a des impacts, mais la réglementation, elle a bien fixé des limites à ne pas dépasser. Et ces limites-là, ce sont des valeurs à partir desquelles il peut avoir un problème sanitaire. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les mesures que les sociétés minières ont effectuées, que nous-mêmes, en tant que représentants de l'État, la direction départementale, que nous avons effectuées, nous n'avons pas eu de dépassement.
Et
je vais te dire, pour le public par exemple, la limite réglementaire comme dose ajoutée, hein, c'est 1 millisievert l'année. La Somaïr, elle est à 0,5 millisievert. La Kouminak, elle est à 0,84 millisievert. Ça, c'est pour la population.
Ça, c'est
la limite réglementaire n'est pas dépassée. Ils n'ont pas atteint la limite. Maintenant, côté travailleurs, les travailleurs qui sont en contact avec les minerais, ils sont bien suivis, eux aussi également. Les gens qui travaillent à l'usine et à la mine, ils sont en dosimétrie individuelle. Chaque agent a l'obligation réglementaire de porter un dosimètre.
C'est quoi un dosimètre?
Un dosimètre, c'est un appareil que les miniers donc, accrochent à la hanche et qui mesure l'ensemble de la radioactivité, l'ensemble de la dose absorbée par un travailleur.
Et ça leur permet soit de savoir qu'ils sont trop proche de
effectivement, ce sont ces appareils-là qui permettent de suivre les agents du point de vue radiologiquement. Chaque fin du mois, les dosimètres, les récupérer, les remplacer par un autre. Et à la fin de l'année, donc, il y a le bilan annuel qui est fait. Et il ne faut pas dépasser 20 millisieverts d'après la réglementation. Côté Somaïr, je te donne les résultats de 2017. Ils sont à 8,40 comme dose maximale, la dose ajoutée pour les travailleurs, les agents. Et côté Kouminak, qui exploite la mine souterraine, ils sont à 17,74. Je te parle du bilan 2017. Pour l'année 2018, donc les résultats ne sont pas encore parvenus, parce que la réglementation est dit au plus tard avant le 15 avril.
Bien.
Donc on attend ce résultat-là au plus tard avant le 15 avril 2019.
Monsieur Ramar, des compléments d'information ou des réactions?
Ma réaction, c'est que nous constatons qu'effectivement, ce que disent les sociétés minières et ce que dit l'État sont toujours pareils, c'est-à-dire qu'ils disent toujours la même chose. Et ils parlent toujours technique. C'est pour ça qu'ils disent la même chose. Ils disent qu'il n'y a aucun problème. C'est ça le vrai problème. Deuxièmement, tout à l'heure, on a parlé des stations de surveillance. Les stations de surveillance, c'est quoi? C'est pour mesurer la radioactivité dans la ville d'Arlit ou dans la zone d'Arlit. Il y a une référence, c'est-à-dire le point zéro des stations de surveillance. C'est la douane d'Arlit. C'est ça la station zéro, c'est-à-dire que là, il n'y a rien, c'est le niveau normal. Or, la douane d'Arlit est en plein milieu d'Arlit. Il a été convenu que cette station soit reculée, soit portée au moins à Agadez pour que ça soit fait. Ça n'a pas été fait. La station est toujours à Arlit, c'est-à-dire que le point 0 et le point 40 sont les mêmes, ou le point 0 et le point 100 sont les mêmes. Donc on ne peut pas faire la différence, il n'y a rien pour faire la différence. On ne peut rien retirer de 0, puisque 0 ne contient rien.
Troisième chose, Algade.
Algade, c'est une société qui est en France. Algade, c'est une société qui fait le travail que Areva veut. C'est ce que nous disons. Quatrième chose, pour dire que la radioactivité n'a pas de problème et que les gens se portent très bien, il a été créé un observatoire de santé entre les organisations de la société civile du Niger, les organisations de la société civile de France, Areva et Médecins du Monde et Sherpa. Cet observatoire de santé avait pour but de regarder la santé autour des mines dans la région d'Agadez. OSRA, ça s'appelle Observatoire de Santé de la région d'Agadez. On avait convenu comment le travail va être fait. Finalement, on s'est retrouvé que c'est Areva qui voulait faire ce qu'elle veut faire. Et on s'est retrouvé du fait que les organisations de la société civile de France se sont retirées. Un certain nombre d'organisations de la société civile du Niger se sont retirées parce qu'on veut faire du brouillon avec. Donc c'est comme
finalement,
ça.
Finalement, ça n'a pas marché, l'observatoire de santé.
Ils disent que ça marche.
Nous, on n'est pas là-dedans.
Mais il y a le GREEN, groupe de réflexion sur les industries extractives, qui est là-dedans. Il y a une autre organisation aussi qui fait ça, qui les accompagne.
Vous avez parlé tout à l'heure d'Algade, et on a entendu le directeur dire que, du fait que les gens ne sont pas d'accord ou ont des hésitations par rapport à cette société française, il y a eu une contre-expertise, notamment envoyée à Lisbonne, au Portugal, et qui finalement a donné les mêmes résultats.
Il a dit en 2015. 1969-2015, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà en 2015, nous sommes à plus de 120 000 tonnes d'uranium qui ont été extraites de ce sous-sol. 120 000 tonnes qui ont été extraites. Ça, c'est 2015. Et le reste? Qui a bu quoi? Qui a aspiré quoi? Qui a respiré quoi? Qui a respiré ceci? Voilà ce qui est la question. Parce que l'uranium, quand vous êtes contaminé en 1980, ce n'est pas parce qu'en 2015, on a fait des analyses que vous allez être dispensé de la contamination.
Vous voulez réagir, monsieur?
Je voudrais revenir d'abord sur la station de surveillance. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette station, d'abord, à Arlit, quand l'exploitation minière a commencé, il n'y avait pas eu une étude d'impact environnemental. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu détermination du niveau zéro. Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune exigence réglementaire. Quand l'exploitation a commencé en 69-71, donc il n'y avait pas eu une étude d'impact environnemental. Donc, personne ne connaît exactement les niveaux zéro. Donc, avant l'exploitation, l'état initial à Arlit, on ne les connaît pas. Maintenant, pour la station, là, c'était un consensus entre les sociétés minières, l'administration. C'est en collaboration avec les différents partenaires, là, sociétés minières et administration, que la station de la douane là, a été implantée en 2002, pour représenter les niveaux zéro, les niveaux naturels.
Et est-ce que vous pensez que ce niveau zéro peut rester statique pendant longtemps?
Pour installer une station de surveillance radiologique, il y a un certain nombre de critères. Il y a des caractéristiques qu'il faut nécessairement définir. La géologie de la zone, la direction du vent. Est-ce qu'on a la même géologie? Si cette station-là, on l'implante ailleurs, est-ce qu'on a la même géologie qu'Arlit? Et Algade, je reviens un peu sur Algade. Algade, ce n'est pas une société. C'est un laboratoire indépendant. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Areva. C'est un laboratoire indépendant. Toi-même, en tant que privé, tu peux envoyer tes échantillons à Algade, tu seras facturé, elles vont te renvoyer les résultats. C'est un laboratoire indépendant agréé et qui est reconnu vraiment à l'international.
Bien. Nous allons poursuivre sur les conséquences, en tout cas documentées. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences documentées des déchets miniers sur la santé de l'homme, sur les animaux et sur l'environnement dont vous avez connaissance.
Le constat que nous avons fait, en 2002-2003, ce que nous avons constaté, qu'un certain nombre de travailleurs sont malades, un certain nombre de travailleurs ou d'ex-travailleurs sont morts.
Quel genre de maladie?
La question est là. S'ils sont morts, nous nous posons la question de quoi ils sont morts. C'est la question que nous posons à Areva.
Et ceux qui sont malades, est-ce que vous savez de quel genre de maladie?
Justement, c'est la question que nous posons à Areva. De quelle maladie souffre-t-il? Nous n'avons jamais de réponse.
Mais si vous ne savez pas, comment vous pouvez savoir qu'il y a le lien entre eux?
Nous nous interrogeons. Ce n'est pas que nous savons, nous ne pouvons pas savoir. Nous nous interrogeons, nous leur posons la question. S'ils nous répondaient, c'était bien, ils ne nous répondent pas. Donc s'ils ne répondent pas, ça veut dire quoi?
Est-ce que vous avez des chiffres en termes de morts suspectes?
Oui, lorsque l'OSRA a été créée en 2011, avons fourni une liste à OSRA pour qu'elle nous dise de quoi la liste de ces anciens travailleurs-là qui sont morts, de quoi sont-ils morts. Nous avons fourni cette liste. C'est là que le débat s'est gâté. Ça n'a pas été fait. On ne nous a pas dit de quoi ils sont morts. Nous estimons qu'ils sont morts de maladies liées au rayonnement ionisant. J'ai dit bien nous estimons. Maintenant,
Et ça, il s'agit des personnes qui ont travaillé, qui étaient en contact direct avec les choses. Et qu'en est-il de ceux dont vous avez connaissance par rapport à la population qui vit, on va dire, à une distance relativement...
Non, du point de vue population, il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour dire qu'il est mort, ou même pour évoquer l'hypothèse qu'il est mort du rayonnement ionisant. On ne peut pas faire cette hypothèse-là, puisqu'il n'y a pas eu d'études épidémiologiques par rapport à ça. On ne peut pas le dire.
Ouais, et qu'en est-il des animaux? Est-ce que les animaux aussi sont exposés?
Les animaux, du point de vue radiologique, je ne peux pas dire que les animaux sont exposés. Mais du point de vue chimique, nous avons la preuve qu'un certain nombre d'animaux sont morts. Nous avons fait une inspection avec les sociétés minières, d'ailleurs, de tout autour de la mine de Somaïr, par exemple. Nous avons trouvé un certain nombre de chameaux, une vingtaine de chameaux qui sont morts parce qu'ils ont mangé, ils ont brouté. Je ne sais pas, ils considèrent que c'est du sel, mais c'était du sel qui était destiné au traitement de l'uranium. Ils pensaient que c'était du sel comme ça. Donc, en rodant comme ça, ils sont venus, ils ont mangé ça et ils sont morts. Donc, c'est ce genre d'accident-là qui peuvent arriver. Mais du point de vue radiologique, il n'y a pas d'études qui démontrent que les animaux radiologiquement sont morts.
Et nous revenons à vous, monsieur le directeur.
Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est de savoir quelles sont les maladies les plus récurrentes à Arlette. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu une étude épidémiologique qui puisse montrer un peu les liens entre les impacts de l'exploitation minière d'uranium et les maladies les plus récurrentes à Arlette. Parce que les maladies, en tout cas moi c'est un constat, hein, c'est un constat que je fais. Les maladies les plus récurrentes à Arlette là sont surtout les diabètes, l'hypertension artérielle et les ulcères. Et là c'est des maladies qu'on rencontre, si tu veux, un peu partout au Niger.
Est-ce qu'il y a une maladie principale qu'on peut attribuer à la radioactivité?
Je te dis que jusqu'ici...
Du cancer de poumon,
Jusqu'ici, il n'y a pas eu une étude épidémiologique. Mais globalement, il peut y avoir, par exemple, une forte exposition au radon peut conduire à des cancers de poumon. Mais jusqu'ici, on n'a pas eu, en tout cas, un lien qui puisse nous montrer, voilà, telle maladie, c'est à cause de telle activité.
Vous avez quelques compléments d'information, M. Ramar?
Par rapport au déclenchement des maladies liées à l'exploitation de l'uranium. Tout ce que nous savons, dans ce que nous avons de l'expérience que nous avons de la protection autour des sites miniers, c'est que nous savons que partout où il y a eu l'exploitation de l'uranium, les effets de cette exploitation n'ont pu être vus que 20 ans après le début de l'exploitation. C'est pour ça qu'au Niger, on n'a rien vu. D'abord, il y a deux choses qui se sont mélangées. D'abord, il y a le fait que nous ne connaissons pas l'uranium. Nous sommes des ignorants, nous, dans ce domaine-là, au Niger. Ensuite, il y a le fait qu'il faut 20 ans pour que ça commence à venir. Quand ça a commencé à venir, nous ne nous sommes pas interrogés puisque nous ne savons pas. Personne ne nous a dit que la radioactivité existe ou bien elle fait ceci, elle fait cela. Personne. C'est pour ça que ce n'est que dans les années 86 que les Nigériens ont commencé. Et 86, quand vous regardez, c'est aux environs de l'accident de Tchernobyl quand les gens ont commencé à comprendre.
Alors vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain dans cette question de prévention, de protection et de sensibilisation?
Bien, nous faisons
population.
Ce qu'on appelle de la sensibilisation. Donc on sensibilise les gens, on informe les gens sur les effets des impacts sociaux et radiologiques de l'exploitation de l'uranium. C'est un travail permanent que nous faisons.
Qu'est-ce que vous leur demandez, par exemple, de faire ou de ne pas faire?
D'abord, on leur apprend c'est quoi les impacts. C'est la première des choses. C'est quoi les impacts de l'exploitation de l'uranium? Donc la radioactivité, les déchets, tout ça, ainsi de suite. On leur apprend c'est quoi et comment il faut les découvrir, où ils sont ces déchets-là, comment il faut se protéger.
Voilà comment nous faisons. Donc une fois que nous leur apprenons ça, nous les informons, ils prennent conscience. Ça veut dire qu'ils sont moins dans le risque comme ça. Parce que ça, c'est la première des choses qu'on fait. Maintenant, ensuite, en ce qui concerne les questions économiques et sociales, ça aussi, on les informe sur les maladies, par exemple, qui peuvent être liées à ces trucs-là. On les informe comment ils peuvent se protéger, comment il faut faire pour protéger leurs droits en matière sociale, en matière de santé.
Où en est-on par rapport à ces projets plan compteur qui consistent à détruire les maisons qui sont exposées, les maisons pour reprendre la construction?
Comme je l'ai dit,
et vous dites que c'est sur un échantillonnage. Est-ce qu'aujourd'hui ce projet continue?
Ce projet continue, puisque les 120 maisons que nous nous sommes données, nous venons juste de les finir en 2018. Certains sont en cours de reconstruction. Donc, elles sont en cours de reconstruction jusqu'en 2018.
Ce plan compteur, il est financé par qui?
Il est financé par Areva.
Orano.
C'est Orano. On considère que c'est le pollueur payeur. C'est eux qui ont accepté librement de le faire. Et on le fait avec eux. C'est eux qui reconstruisent. C'est eux qui décontaminent. Nous sommes là pour vérifier si, effectivement, il n'y a rien.
Pour le moment, vous n'avez pas fini les 120 maisons?
On n'a pas fini les 120. Une fois que les 120 maisons sont finies, toute l'équipe, c'est-à-dire la direction des mines, la société civile, les sociétés minières d'Areva et tous ceux qui ont fait le premier accord vont se retrouver pour dire voilà le bilan général, voilà ce que ça donne. Quelle est la suite à donner? Donc, il faut répondre à cette question. On continue ou on met fin à ça? Cette réunion-là n'a pas eu lieu encore.
Alors, on sait que les populations utilisent aussi certains matériaux qui viendraient des sites miniers et qui sont contaminés et que ces matériaux se retrouvent sur le marché. Comment cela arrive?
Ils sont sortis avant le début du plan compteur, certains. Parce qu'avant, il n'y avait pas de mesures de contrôle. Ils sont sortis avant. Dès le début, c'est-à-dire que quand on a commencé l'exploitation, par exemple, les gens ne savaient pas que le minerai, le banco qui peut être retiré d'une carrière, ne peut pas servir à la construction d'une maison. Les gens ne savaient pas que les bancos étaient contaminés. Ils prennent les bancos, ils viennent, ils font les briques et ils construisent la maison avec. Ou bien ils prennent des planches ou du plastique qui sort de la contamination, on leur dit allez-y couvrir. Ça n'a pas été contrôlé, ils viennent le couvrir. Aujourd'hui, le plan compteur, tu viens, tu fais le contrôle, tu trouves ça là-bas. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a ce qu'on appelle les incontrôlables, ce sont les gens qui font le vol. Ceux qui volent. Il y a des gens en permanence qui sont en train de chercher ces matériaux-là pour les voler et les vendre sur le marché.
Maintenant, sans se soucier des dangers pour eux-mêmes ou
oui,
pour les autres.
Voilà. Et c'est l'argent qui les intéresse. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Le plan compteur de tout à l'heure, la même équipe fait un contrôle périodique de tous les marchés de ferraille à Arlit. Tous les marchés de matériaux.
Périodique par mois, par trimestre?
Dès qu'on sent qu'il y a un matériel quelque part qui nous semble suspect, on appelle toute l'équipe et on vient, on le contrôle. Nous, en tant que ONG, nous faisons ce qu'on a fait la veille. Nous regardons sur tous les marchés. Donc, on voit quelque chose de suspect. On leur dit, mais moi, j'ai vu quelque chose de suspect là-bas. Est-ce que vous pouvez venir? On va aller contrôler, voir si ce n'est pas contaminé. Ça, c'est permanent. Nous, en tout cas, au niveau de l'ONG Agriman, dès qu'on voit quelque chose de suspect, on appelle les autres pour leur dire, ah, il faut qu'on contrôle ça. Et ils acceptent.
Monsieur le directeur des mines.
Donc, par rapport à la sortie du matériel, effectivement, il y a des sorties clandestines. Mais globalement, toutes les sorties de matériel rétrocédées au public, elles sont contrôlées. Qu'il s'agisse de la Somar ou bien de la Comenac, chaque fois elles font appel à nous, en tant que représentants de l'État. Nous partons sur les sites avec nos propres appareils, faire des mesures et après nous donnons l'autorisation de sortie. Certes, il y a des cas qui peuvent échapper au contrôle. Mais quand même, globalement, donc les matériels rétrocédés au public.
Si vous pouvez aller rapidement sur les mesures de protection que la direction départementale des mines déploie aujourd'hui.
Oui. Globalement, nous, notre rôle ici à Arlit, c'est le contrôle de l'application de la législation minière. Donc cette législation minière, si je prends le domaine de la radioprotection, quand nous partons sur les installations, il y a ce qu'on appelle zone contrôlée, il y a ce qu'on appelle également zone surveillée. La zone contrôlée, c'est là où les travailleurs porte de dosimètre. Chaque agent porte un dosimètre. C'est la dosimétrie individuelle. On veille sur ça. Est-ce que chaque agent a porté son dosimètre? Ça, c'est la zone, la dosimétrie individuelle. Il y a la dosimétrie des fonctions où une équipe porte un seul dosimètre. Et là, nous veillons sur ça avec nos appareils. Nous faisons des contrôles. Est-ce que réellement cette zone-là, c'est une zone contrôlée? Est-ce que réellement cette zone-là, c'est une zone surveillée? Est-ce que le monsieur-là a porté son dosimètre? On regarde également, en dehors donc de cette dosimétrie-là, les ports des autres EPI, les masques anti-poussière, les gants, les anti-bruits, tous les EPI, on les contrôle. Et les sorties de matériel également, je l'ai dit, donc sont contrôlées. Et en ville, nous faisons des campagnes de ratissage. Nous faisons des campagnes de ratissage pour détecter Donc les matériels qui sont encore en ville, qui traînent en ville. Et en dehors de ce contrôle-là, nous avons fait des mesures du radon dans toute la ville d'Arlette.
Ça veut dire ?
Pendant 3 ans, donc le radon 200-222, le radon c'est un gaz radioactif. On a lancé une campagne de 3 ans, on a commencé en 2015, on a fini en fin 2018. La mesure du radon dans les habitations, dans les bureaux, dans le...
Mais qu'est-ce que ça donne?
On a eu quelques cas de dépassement sur lesquels on a fait des recommandations. Parce que pour le radon, la recommandation, l'action, elle est très simple, c'est d'aérer la salle. Là où on constate une concentration du radon qui dépasse la norme, donc on recommande aux intéressés ou bien à l'intéressé donc d'aérer la salle, d'aérer sa chambre. En ouvrant les portes et pénètre, j'accélère l'air. Donc en dehors donc de ce radon-là, il y a les stations de surveillance radiologique qui sont implantées un peu partout. La Somaïr, elle a 7 stations de surveillance, la Cominac, elle a 9. Et chaque fois, nous faisons le tour de ces stations-là pour voir si réellement les appareils fonctionnent normalement. Et en cas de défaillance, nous attirons donc l'attention de société-là pour se perfectionner, pour s'améliorer. On n'est pas resté les bras croisés. Les gens pensent que Arlette là. Non, non, l'État est toujours là. L'État n'a jamais abandonné Arlette.
Monsieur Ramar, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des sociétés minières pour protéger la population?
Bon, les sociétés minières aujourd'hui, elles ont contaminé ce qu'elles peuvent contaminer ou ce qui peut être contaminé, tout est contaminé. Ce qui doit être fait, des trucs comme les plans compteurs, ils ont été faits. C'est ça ce qui peut protéger la population. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est l'après-mine. C'est lorsque l'exploitation minière, l'uranium va finir. Ce qu'on va laisser aux populations, comment est-ce que ça va être géré? Parce que c'est ça qui va contaminer les générations futures. Et ça, il faut trouver comment il faut les gérer. Tout à l'heure, j'avais dit que les résidus de traitement, nous avons les 50 millions de tonnes. Peut-être que le jour où ils vont finir la production, il y aura 100 millions de tonnes de résidus qui contiennent 80% de radioactivité qui seraient exposées. Ce qui nous inquiète, c'est la manière dont ça va être géré.
L'après-mine,
comment ça va être géré? C'est un des points forts de la gestion de l'environnement après les mines. Et il y aura une après-mine. Les mines vont finir et ça va venir.
Et vous avez aussi cette inquiétude des changements climatiques qui pourraient entraîner.
On a cette inquiétude des changements climatiques où les pluies vont devenir, imprévisibles et que, par exemple, les bassins qui sont pleins vont déborder, des tas de choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que maintenant, en le disant, on voit que peut-être c'est une petite folie, mais la réalité viendra.
Pour finir, monsieur le directeur des mines, il a parlé de cette question d'après-mine. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que c'est dans le souci?
Est-ce que
c'est dans le souci aussi de l'état du Niger?
Oui, la question de l'après-mine, c'est la bonne question qui a déjà été prise en compte par les textes nationaux. Et déjà, il y a eu la réalisation d'une planche d'essai à Somar et d'une autre à Cominac. Et le but, c'est de voir comment on peut confiner la radioactivité, avec quel matériau et combien de mètres d'épaisseur. Déjà, on est sur cette partie-là. Toujours côté Somaïr, il y a ce qu'on appelle l'auto-remblayage des fosses. Ça rentre dans le cadre de la réhabilitation des sites. À l'intérieur d'une même fosse, tu prends les cerules et tu combles une partie. Et à le remblayage des fosses, quand deux fosses sont contiguës, donc tu prends les cerules, déjà tu réhabilites la fosse qui est à côté. Ça, c'est côté Somaïr. Côté Cominac, il y a le bouchage de gros trous. Les trous d'aérage qui sont en train d'être bouchés, plus de 200 trous sont bouchés à l'heure actuelle. Il y a un bassin, le bassin numéro 10 qui a été réaménagé. Et à la plage d'essai, eux aussi, ils ont réalisé leur plage d'essai. Nous avons fait des mesures. Pour le moment, la radioactivité a été confinée à 100%. Mais nous sommes en train de réfléchir avec eux et au plus haut niveau de combien d'années ça va durer. Donc nous sommes en train de réfléchir sur ça. Et là, c'est des essais géotechniques, des analystes qui vont nous confirmer l'âge de notre confinement.
Et c'est ici que s'achève le forum de ce soir sur l'impact des déchets issus de l'exploitation de l'uranium sur les hommes, les animaux et sur l'environnement. À la lumière des deux interventions, l'on retient que l'épouvantail de la radiation plane encore sur Arlette. Des études ont mis en évidence l'existence de matériel, de substances et de maisons contaminées par la radiation. C'est ainsi qu'un projet appelé Plan Compteur est initié depuis 2011. Il consiste entre autres à détruire des maisons contaminés, puis reconstruire et les financer par Areva, aujourd'hui Orano. Il ressort aussi de ce débat qu'à ce jour, il n'existe aucune étude épidémiologique qui mette en évidence le lien entre l'exploitation de l'uranium et les maladies fréquentes chez les populations d'Arlette. Nous étions en compagnie de
Ramar Ilatoufeg, secrétaire général de l'ONG Agriman, Bassirou Moussa Babalé, directeur départemental des mines,
ici à Arlit. Nous avons également invité Orano, ex-Areva, pour cette même émission. Ce dernier a promis de répondre plus tard à nos questions.